Babylone, la puissance des cieux. Babylone, la ville dont le luxe est inépuisable, qui rassemble les lois et établit la royauté. Babylone, la ville sainte. Poème de Tintir, 12e siècle avant Jésus-Christ.
D'histoire. C'est une des villes les plus célèbres de l'Antiquité, au centre de la Mésopotamie, où la Bible situait le paradis terrestre et où sont nées l'écriture, le droit, la roue, l'agriculture et le calcul. Babylone n'a jamais cessé de fasciner les hommes. Et même s'il ne reste rien de ses temples, de ses murailles, ni de ses célèbres jardins suspendus qui figuraient parmi les sept merveilles du monde, l'histoire n'a pas oublié que Babylone fut pendant des siècles le centre d'un des empires les plus puissants du monde, avant de disparaître victime des armées de Cyrus et d'Alexandre, et même, 2300 ans après lui, des chars de l'armée américaine dont les soldats ignoraient sans doute que sous les chenilles de leurs blindés se trouvaient les vestiges de ce qui fut, il y a très longtemps, la capitale de Nabucodonosor. France Inter, le 8 avril 2003.
Fabienne Sintès, l'un de nos envoyés spéciaux, accompagne la 101e Airborne, la fameuse division aéroportée qui est arrivée au pied des murs de Babylone. L'ancienne capitale assyrienne s'appelle aujourd'hui Ahilla. Reportage.
Les tirs d'artillerie font trembler le sol par vagues, les chars viennent d'entrer dans Ahilla et c'est ici que les Américains vont établir leur camp de base. Le major Fittipante range son arme et conseille à ses hommes de sourire. Puis viennent les questions plus pragmatiques. Sait-il si les Fedaïnes sont encore là, s'il y a des caches d'armes ici? Les Fedaïnes, je ne sais pas s'ils ont reçu des ordres, mais en tout cas, ils ne sont plus là, ils sont partis. Mon village est sûr, je peux vous l'assurer. Aux portes de Babylone, Fabienne Sintès, France Inter.
Daniel Arnaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du Proche-Orient ancien, et professeur à l'école pratique des hautes études. Alors, votre biographie de Nabucodonosor, roi de Babylone, ne va pas bien sûr jusqu'à la guerre du Golfe que l'on vient d'entendre, mais elle rappelle quand même que ce qui est aujourd'hui, on l'a entendu, un village occupé il y a un an par les Américains, qui est à 90 km de Bagdad, bien Babylone a été un peu comme Washington, au fond, la capitale d'un empire autrefois. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, d'ailleurs, de ce qui a fait sa grandeur? Qu'est-ce que les Américains ont pu voir quand ils sont arrivés il y a un an?
D'abord, ils ont vu des ruines qui ont été bien fouillées par des équipes allemandes jusqu'à la guerre de 14-18, qui ont donné lieu à des publications superbes et qui sont encore, évidemment, des maîtresses de l'érudition allemande. Et ensuite, les divers gouvernements, jusqu'à un temps très récent, ont continué à remonter des murs, en suivant d'ailleurs, avec une certaine exactitude, enfin tout à fait satisfaisante, la réalité de l'époque, justement, du 6e siècle avant notre ère, c'est-à-dire de Nabucodonosor. Je dirais que c'est même assez exact, parce que un petit temple qui s'appelle le temple de la Grande Dame, Ninmar, avait été reconstitué il y a déjà assez longtemps, et il avait déjà pris le caractère qu'il avait dans l'Antiquité, c'est-à-dire la dégradation, les murs qui commencent à s'écailler, et c'est ainsi que se présentaient évidemment les grandes villes babyloniennes, sauf quelques exceptions, celle précisément que Nabucodonosor II avait réussi à faire, parce qu'il a utilisé massivement de la brique à glaçure qui évidemment résiste assez bien au temps.
Alors cela dit, ça c'était à l'époque de Nabucodonosor, c'est-à-dire il y a 26 siècles, hein, 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais la ville, on en parle depuis beaucoup plus longtemps, elle a existé il y a longtemps. Au début, d'ailleurs, ce n'était qu'une des villes de Mésopotamie. La Mésopotamie était divisée en une trentaine de cités-états, dont Babylone était loin d'être la plus importante.
Exactement. Mais on pourrait même dire que Babylone est une ville nouvelle. Nouvelle dans l'histoire mésopotamienne, puisque l'histoire mésopotamienne joue sur une chronologie presque géologique. Il faut bien voir que les villes mésopotamiennes importantes, les grandes métropole avec leurs temples, leurs tours à étages et leurs dieux datent de l'établissement de l'homme dans la vallée, de la basse vallée du Tigre et de l'Euphrate, c'est-à-dire au 4e millénaire. Et que ces grandes métropoles remontent donc, quand Babylone apparaît dans les textes, à 2 millénaires plus tôt, puisque Babylone n'apparaît qu'à la fin du 3e millénaire. C'est une toute petite ville. Heureusement qu'au 2e millénaire, un roi, une dynastie importante, dont le roi le plus important évidemment sera Hammurabi, prend le pouvoir dans cette ville et réussit à établir l'unité par la force de la Babylonie.
Chacune de ces villes, Daniel Arnaud, avait son dieu. Je crois que Babylone, c'était Marduk, hein, c'est ça ?
Exactement. Chaque ville est construite autour d'un temple où il y a une divinité, soit dieu, soit déesse. Et cette dieu et cette déesse sont là installés, je dirais, depuis toujours. On ne change pas le dieu de la ville. Et les dieux, donc, sont consubstantiels à la ville. Il y a un proverbe qui disait, n'est-ce pas, que le dieu soleil tient à la ville de Larsa comme le bitume tient au bateau, n'est-ce pas, avec lequel on le calfatait. Alors Marduk, c'est le très grand dieu de Babylone, mais c'est un dieu qui n'a été important que dans cette ville. Marduk est un dieu qui a eu peu de chance. Vraiment peu de chance, parce que jusqu'au XIIe siècle, c'est un dieu local, puis son clergé essaie d'en faire un dieu non seulement national, mais international, et il est dit dans un certain nombre d'œuvres littéraires, dont certaines sont même connues sur la Méditerranée. Mais ensuite, lorsque Marduk va devenir le dieu national, voilà que son fils, n'est-ce pas, Nabu, lui l'emporte. C'est une question de mode qu'on ne comprend pas. Et finalement, le clergé de Marduk a échoué. Il a échoué. Marduk est un dieu très connu, célèbre si l'on veut, mais pour un Babylonien, le dieu national, c'est le fils de Marduk.
Et puis il avait évidemment, ce Marduk, un grand rival, le dieu de la Bible, très en colère contre un roi de légende qui aurait régné sur Babylone, le premier tyran de l'histoire, Nemrod.
Dans son orgueil, il entreprit de construire une tour élevée, une tour dont le sommet prétendait atteindre les cieux. Le Seigneur descendit pour voir la tour que les hommes avaient bâtie. Et Dieu dit, voici que tous forment un seul peuple et parlent une seule langue, et tel est le début de leur entreprise. S'ils commencent de cette façon, ils s'imagineront bientôt qu'ils peuvent se permettre n'importe quoi. Allons, descendons, et là, confondons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. Quoi, qu'est-ce que tu dis ? On nomma la tour Babel, car à cause d'elle, Dieu confondit le langage de tous les habitants du monde. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la face de la terre.
Est-ce que c'est la tour de Babel ou est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce que c'est la tour de Babel qui a donné son nom à Babylone, Daniel Arnaud ?
Non, elle a pris son nom de la ville de Babylone. Son nom, c'est le fondement du ciel et de la terre. L'idée étant que la terre soutient évidemment la tour à étage, mais quand les Babyloniens parlent de terre, il s'agit de la terre infernale, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas du sol. Bon, et elle est soutenue par la terre infernale, les enfers. Et elle touche plus ou moins au ciel, donc elle sert un petit peu comme les Babyloniens parlaient d'un nœud, n'est-ce pas ? Babylone, c'est un nœud dont la tour à étage est vraiment le symbole. Et cette tour à étage, de fait, est très impressionnante, puisque Nabucodonosor va la monter jusqu'à 90 mètres, sur 90 mètres de carré.
Oui, mais alors, bien avant qu'on parle de Nabucodonosor, je sais bien que c'est le titre de votre livre, mais je voudrais qu'on évoque quand même ce qui était avant, parce que vous avez évoqué un nom tout à l'heure, qui est celui de Hammurabi. Oui. Alors, ça, c'était 1000 ans avant Nabucodonosor, c'est le roi le plus célèbre de la plus ancienne ou de la première grande dynastie ayant régné à Babylone. Il a une particularité, ce roi, c'est qu'il est à l'origine d'un texte d'ailleurs qui a été très utile pour les archéologues et qui est en quelque sorte pratiquement le premier code de loi de l'histoire, le fameux code Hammurabi.
Exactement. Enfin, ce n'est pas exactement...
On le retrouve sur une stèle qui est au Louvre d'ailleurs.
Oui, ce n'est pas le premier code de l'histoire. Il existe un code qui le précède, mais il est sur argile et évidemment il n'a pas le prestige du monument de Hammurabi. Cela dit, Hammurabi a fait aussi des éditions sur argile, n'est-ce pas, du code, pour les diffuser dans les villes de l'Empire. Oui, c'est vrai qu'Hammurabi fut un roi qui a eu de la chance. Il prend le pouvoir à un moment où la Babylonie est partagée toujours dans ses cités-États, qui gardent donc une autonomie et pour certaines une indépendance totale. Et il va réussir, sans trop de difficultés d'ailleurs, à l'unifier. Il va l'unifier, non seulement le sud, mais il va même mettre la main sur une partie de l'Euphrate, du moyen Euphrate, et aussi sur le nord de l'Irak actuel, c'est-à-dire sur le monde assyrien.
Ça devient un empire, la Babylone. Ça devient un petit,
oui, il est mort en 1750, donc un petit empire. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Babylonie n'était pas prête pour l'unité, puisque quelques années après, quand son fils a pris le pouvoir, de nouveau, le pays s'est coupé en morceaux, avec deux morceaux essentiels, le sud, que l'on appelle toujours Sumer, parce que les Sumériens sont supposés y vivre encore et y parler, ce qui est d'ailleurs faux, puisque le Sumérien a disparu de l'usage, et le pays du Nord, qu'on appelle Akkad, c'est-à-dire le pays de langue babylonienne. Mais là, il faudra attendre en fait le milieu du deuxième millénaire, c'est-à-dire 200 ans après Hammurabi, pour que les rois de Babylone ou d'autres cités, d'autres métropoles réussissent à être reconnus par l'ensemble des cités de ce qui est maintenant l'Irak du Sud.
Quelques mots sur ce code quand même, Hammurabi, Daniel Arnaud, parce que j'ai appris, il y a des choses extraordinaires. D'abord, bon, il définit bien sûr les délits, les peines, hein, comme on le fait aujourd'hui dans le code civil, mais ça c'est bien après. Et puis alors, il établit une hiérarchie dans la société. Il y a bien entendu, les hommes libres, les hommes, les femmes libres, et puis il y a les esclaves. Mais alors les esclaves, c'est pas du tout les esclaves tels qu'on les entend aujourd'hui. Par exemple, il y avait une grande mobilité sociale. Les esclaves pouvaient exercer une profession, ils pouvaient racheter leur liberté, ils pouvaient épouser une femme libre, et les femmes elles-mêmes n'étaient pas du tout à part dans la société babylonienne. Il y a même une légende qui veut que Babylone ait été et eu pour reine une femme, qui était Sémiramis.
Oui, c'est une légende. Mais c'est une légende qui est presque vraie pour les Assyriens au nord. Oui, c'est vrai que le code de Hammurabi est une œuvre maîtresse de l'esprit humain. Il faut bien voir tout de même qu'elle a des limites. Le roi Hammurabi, en éditant ce code, a voulu, je dirais, compléter ce que la coutume non écrite, s'imposant à tous, à commencer par le roi jusqu'au dernier des esclaves, ne prévoyait pas. Dans ce code, vous avez surtout décisions qui portent sur, par exemple, la responsabilité du médecin ou de l'architecte. Or, la société des villages n'utilise ni médecin ni architecte. De même, les problèmes très complexes des relations entre marchands et commis qui voyageaient pour vendre la marchandise, où il y avait toujours des conflits très complexes, qui évidemment sont étrangers à la société paysanne. Donc, il y a des limites, et il y a une autre limite encore, c'est qu'il semble bien, curieusement, que les juges ne se soient pas cru liés par ces décisions. Elles ont un caractère ponctuel. Autrement dit, à la différence de notre jurisprudence, car c'est de la jurisprudence en fait, à la différence de notre jurisprudence, le roi Hammurabi n'engage pas vraiment le reste de la vie économique et sociale par ses décisions. Il y a donc un aspect dans le code de Hammurabi, on l'a remarqué depuis très longtemps, qui veut insister sur, je dirais, l'astuce du roi. Le roi qui sait et qui comprend mieux que les autres. Donc un aspect de roi sage et de roi, je dirais, presque astucieux.
Alors après ce roi Hammurabi, hein, qui a régné au XVIIe siècle avant Jésus-Christ, Babylone va décliner un peu, cet empire d'Hammurabi va être victime de quantité d'invasions, puis à partir du XIIIe siècle, il va commencer à tomber entre les mains des Assyriens venus du nord et qui occupent Babylone et qui vont même imposer pendant des siècles leur dieu Assur à tous les peuples de l'empire d'Hammurabi.
Vous êtes en face de Assur, le grand, le seigneur que les dieux ont envoyé sur la terre pour régner à jamais sur tous les peuples sumériens, en delà et au-delà du fleuve sacré. Vous, qui représentez ici les tribus des vallées, des fleuves et des monts de Babylone, vous, les chefs des peuples vaincus, réunis dans le palais pour rendre hommage aux vainqueurs, sachez que seule la magnanimité d'Assur vous a accordé la vie. Prosternez-vous devant son trône en signe de soumission loyale et éternelle. Gloire à Assur ! Gloire à Assur ! Gloire à Assur !
Alors c'était un extrait de Péplum, évidemment. Assur, c'était le dieu des Assyriens qui n'avait pas de roi à proprement parler, je crois. Daniel Arnaud, le roi était une espèce de vicaire, de représentant.
Exactement.
De
et le roi était le vicaire d'Assur et il ne tirait son autorité sur ses sujets, sur ses compagnons plutôt, de tribus, avant qu'il se sédentarise, puis ensuite une fois sédentarisé sur ses concitoyens, du fait qu'il émettait les ordres d'Assur dont il n'était que le transmetteur. Ce Péplum n'est pas si loin de la vérité. Il est sûr que les Assyriens ont eu cette idée toujours présente à l'esprit qu'il fallait faire reconnaître par l'univers entier qu'Assur était le plus grand des dieux. Mmh. Ce qui, évidemment, ne suppose pas que les autres dieux n'existent pas, mais simplement qu'ils sont inférieurs. Et ils se sont épuisés pendant des siècles, n'est-ce pas, à imposer cette mesure qui a fait que, par exemple, face à Marduk, ils ont pris tous les pouvoirs de Marduk.
Marduk, le dieu de Babylone.
Le dieu de Babylone, y compris les textes littéraires, et ils ont substitué sur les tablettes le nom d'Assur au nom de Marduk, simplement.
Alors, cela dit, les Assyriens vont s'imposer aux Babyloniens, ça va durer pendant des siècles, hein, jusqu'à la libération, au 7e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à la libération de Babylone par les Assyriens, et une coalition aussi, la libération, pardon, de Babylone dont on chasse les Assyriens, ça c'est une coalition des Babyloniens et aussi des Mèdes, hein, qui viennent de l'Est, enfin ça fait beaucoup, c'est un autre peuple. Et alors c'est le début de l'âge d'or, le 6e siècle, le 7e siècle, le début de l'âge d'or de ce qu'on a appelé l'empire néo-babylonien, dont le premier souverain, c'était le père de Nabucodonosor, qui était Nabolassar, hein, je crois.
Exactement. Alors là, on a un phénomène d'ailleurs très curieux, c'est que l'Empire assyrien, n'est-ce pas, est défait, puisque les Assyriens disparaissent de l'histoire. Bon, il reste des Assyriens dans les villes ruinées, mais il n'y a plus le pouvoir assyrien. Comme état souverain, l'Assyrie disparaît. Or, curieusement, les Babyloniens, qui sont leurs vainqueurs, vont hériter de cet empire qui va de l'Euphrate jusqu'à l'Égypte. Et même un certain temps, les Assyriens avaient tenu l'Égypte. Et curieusement, là, nous n'avons pas malheureusement de documentation originelle qui nous permette de savoir pourquoi, ces peuples soumis ne se sont pas révoltés. Ils n'ont pas pris parti contre l'Égypte, contre la Syrie, vais-je dire. Ils n'ont pas pris parti contre les Babyloniens. Ils ont accepté le passage d'un pouvoir à un autre. Il est vrai que c'était des pouvoirs relativement légers. C'était une sorte de protectorat que les Babyloniens établissaient sur le Proche-Orient, sauf quelques cas évidemment bien connus grâce à la Bible. Mais dans l'ensemble, on peut dire que toute la Syrie, par exemple, ce qui correspond à la Syrie actuelle, les grands royaumes de Hama ou de Alep, sont restés tout à fait tranquilles, ont accepté ce passage de pouvoir sans manifester ni acceptation, ni refus.
Il y a quand même des résistances. Bon, Nabolassar meurt en 605, le premier roi, justement, de cette deuxième grande dynastie babylonienne. Son fils Nabucodonosor, donc, arrive, devient roi de Babylonie. Et alors lui, il conquiert quand même, justement, il prend le relais des Assyriens, il va jusqu'en Égypte, il conquiert assez brutalement l'actuel Israël, par exemple, ils prennent la ville d'Ascalon qui est au nord de Gaza, ils s'emparent même de Jérusalem, et là, ils vont à deux reprises prendre la ville, détruire le temple, et déporter les Juifs à Babylone.
Oui, alors il faut bien comprendre...
C'est un exil qui a duré 60 ans à peu près.
Oui, oh, ben certains sont restés dans les années 70, juste de notre ère, c'est pas bon les derniers. Et ils y ont bien travaillé, le Talmud de Babylone quand même a été écrit dans l'Irak actuel. Oui, il se trouve quand même qu'il ne faut pas faire de contresens. L'attaque de Nabucodonosor contre le royaume de Juda, avec Jérusalem comme capitale, est une attaque de militaire et de politique. Il s'agit d'empêcher que la route nord-sud ou sud-nord qui conduit, n'est-ce pas, de l'Euphrate jusqu'au Sinaï et vice-versa, en remontant, soit menacé par un royaume, une forteresse considérable qui était Jérusalem, et un royaume qui pouvait couper les lignes de circulation et les lignes de Nabucodonosor II. Donc, il l'a tenu toujours à ce qu'il y ait un petit royaume, mais un petit royaume soumis, et ce petit royaume, mal dirigé par ses chefs, a cru avec une naïveté absolument incompréhensible que l'Égypte allait d'une manière altruiste, se battre
les
pour
aider.
Eux. Évidemment, l'Égypte n'a rien fait et ils se sont trouvés ainsi battus par deux fois par Nabucodonosor. Mais il faut y voir, je le répète, qu'une action purement de géopolitique.
Et donc envoyé en exil à Babylone, ce qui a inspiré d'ailleurs un des chœurs les plus célèbres de l'opéra de Verdi, le chœur des esclaves hébreux de Nabucodonosor.
France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Babylone.
Alors dans une émission sur Babylone, on ne pouvait pas ne pas mettre le cœur de Nabucodonosor, hein, qui n'était pas seulement d'ailleurs un conquérant, mais qui était aussi un grand bâtisseur, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Alors de Nabucodonosor, on a retrouvé à ce jour 95 inscriptions, hein, la plupart sur des plaques d'argile, écriture cunéiforme bien sûr. Alors ces plaques, curieusement, n'étaient pas destinées à être lues par des humains, mais par les dieux. Et dans ces textes, le roi fait son propre éloge. « Je suis Nabucodonosor, le roi de Babylone, le prince puissant, le favori de Marduk et de Nabou. Lorsque Marduk m'eut façonné dans le ventre de ma mère, dès que je fus né et créé, je suivis les voies divines. » Alors c'est au dieu Marduk que Nabucodonosor doit ses conquêtes guerrières. « Grâce à son aide puissante, dit-il, je traversais des pays lointains, des mers, des montagnes, des lieux infranchissables, je conquis le rebelle, subjuguais mes ennemis et gouvernais le pays avec justice. » Alors de ses conquêtes, Nabucodonosor rapporte de multiples richesses. « Devant Marduk, dit-il, argent et or, bijoux, bronze et bois précieux, tout ce qui a de la valeur, produit des montagnes et trésors des mers en abondance, j'offris comme riche présent à ma ville de Babylone. » Alors le roi rend compte aussi aux dieux des constructions gigantesques qu'il a entreprises. « Pour que l'ennemi méchant n'atteigne pas le territoire de Babylone, dit-il, je construisis un grand terre-plein de la rive du Tigre jusqu'à la rive de l'Euphrate et j'ai entouré la ville avec de puissantes eaux. Et pour que le mal ne puisse opprimer Babylone, ce qu'aucun roi n'avait fait avant moi, j'ai construit un mur fort, c'est l'enceinte extérieure. Et sur les murs de la ville elle-même, je façonnais, dit-il, de féroces taureaux et je les installais au seuil de ses portes. Dans le même élan, Nabucodonosor construit des palais magnifiques. Ô Seigneur, cette demeure que j'ai construite, fais en sorte que je puisse me réjouir de sa magnificence. En des palais richement décorés, d'énormes poutres de cèdre, de sapin et de cyprès venant des hautes montagnes, je fis la toiture, des vantaux de buis et d'ivoire plaqués d'or et d'argent, des gonds de bronze, je plaçais à ses portes, je fis poser à son sommet une frise de lapis-lazuli. Mais Nabucodonosor est aussi un roi de justice. Le roi ne se reposait ni le jour ni la nuit, mais avec conscience et mesure, il établit des règlements meilleurs pour la cité, construisit une nouvelle cour de justice, supprima la corruption et les pots de vin, il apporta le bien-être au pays et fit en sorte que nul homme ne puisse effrayer son peuple.
Nabucodonosor a régné 43 ans, ce qui était très long.
Très long, très long.
605 à 562 avant notre ère. Et alors, on le voit, c'est un bâtisseur. Il a construit, c'est à l'époque de Nabucodonosor que Babylone a acquis sa plus grande taille et sa plus grande dimension.
Ah, sans aucun doute. Arnaud. Sans aucun doute. Il est sûr qu'il a hérité d'un plan ancien de Babylone qu'il n'a pas refait. Mais les constructions de Babylone sont quelque chose d'inimaginable, presque. Il faut bien voir que les techniques de l'époque sont très médiocres. Tout est en briques. Mais il faut transporter ces briques, il faut les faire, les transporter. Il faut bien, par exemple, se rappeler que la muraille extérieure de Babylone, qui enserrait d'ailleurs non pas tellement des maisons que des fermes, des vergers, et qui ont fermé à l'intérieur la muraille intérieure et la ville elle-même de Babylone, fait 40 kilomètres de tour.
Il y avait 100 000 habitants, hein, c'était une immense ville.
On ne sait pas. Bon, c'est une approximation, mais il faut bien voir que ces travaux de Babylone, qui sont gigantesques, ont été faits à une échelle plus modeste, mais dans toutes les villes de l'Empire. Il a refait à peu près tous les temples, toutes les tours à étages, et je rappelle encore que celle de Babylone était en tel état, n'est-ce pas, lorsque son père a pris le pouvoir, que son père a convoqué une assemblée d'architectes pour leur demander, n'est-ce pas, de techniciens, de maçons, les gens, est-ce qu'on peut reconstruire la tour à étages? Alors ils l'ont assuré que oui, mais Nabopolassar n'y est pas arrivé. Il a fallu que son fils continue le travail. Or, il a reconstruit aussi les temples dans toutes les autres villes, et quand on essaie de cuber, n'est-ce pas, le nombre de mètres cubes de ces grosses briques, car à cette époque on fait des briques très grosses briques, ben on est stupéfait.
Tout ça était un peu construit sur du sable, Daniel Arnaud, c'est le cas de dire, parce que, bon, après sa mort, en 562, il a quatre successeurs, dont le dernier, qui s'appelait Nabonide, est assez curieux, il a disparu en Arabie pendant une dizaine d'années, il a tenté d'imposer un nouveau roi aux Babyloniens, si bien d'ailleurs qu'il y a eu une révolte et que ceux-ci ont accepté très facilement, il n'y a pas eu de bataille, la prise de Babylone par les Perses de Cyrus, plus tard il y aura 200 ans après, il y aura Alexandre. Au fond, ça a disparu sans que personne ne défende ni cette ville ni cet empire, Daniel Arnaud.
Oui, c'est-à-dire que le fait qu'une dynastie étrangère règne à Babylone n'avait, ou sur la Babylonie, ne pouvait pas étonner les Babyloniens. Ils avaient connu vous avez parlé des dynasties assyriennes, mais il y a eu des dynasties élamites, c'est-à-dire des gens qui habitaient ce qui est actuellement l'Iran occidental, et ça ne les gênait pas du tout. Au contraire, ils pensaient qu'un roi étranger Béranger pouvait être plus juste et plus équilibré dans ses décisions puisqu'il ne participait pas à un groupe social particulier. Non, la civilisation babylonienne est morte peu à peu parce que tout simplement il y a eu une baisse démographique très importante, qui commence très tôt, mais qui va s'accélérer, ralentie très fermement par Nabuchodonosor lui-même au VIe siècle. Et au Ve siècle encore, la démographie se maintient. Mais ensuite, bon, les Babyloniens disparaissent comme peuple, comme culture, tout simplement parce qu'il n'y a plus personne pour écrire et lire le cunéiforme.
Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de souvenir de cette Babylone d'il y a 2600 ans, dans ce qui est l'Irak actuel, Daniel Armand?
Secondes
à peine.
Oui, d'un mot, je dirais que cette l'idée sumérienne du troisième millénaire, babylonienne du deuxième et du premier, vit encore, je crois, en Irak. C'est l'idée que on est une centralité sans être une unité. C'est-à-dire qu'on peut très bien admettre, n'est-ce pas, que l'on est regroupé sans avoir besoin d'être fondus les uns dans les autres. Alors, à l'époque ancienne, ce sont les cités-états, et maintenant, on pourrait considérer que le partage religieux, par exemple, remplace ce qu'étaient jadis les vieilles cités sumériennes.
Merci Daniel Arnaud. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui est un livre publié chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La Bible de John Huston et Semiramis, esclave et reine de Ludovico Bragavilla. Vous pouvez retrouver ces renseignements ainsi qu'une bibliographie plus complète en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Clotilde Thomas et Eric Gérard. Documentation et archivina Claire Destacan et Claire Tesser. Revue de texte Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Comilac.
Une émission de Patrice Gélinet.